heures et malheurs de l'ère du désendettement généralisé. C'était le thème de la conférence organisée le 12 septembre à l'Hôtel Hermitage par la Monaco Méditerranée Fondation, invité Denis Kessler, ancien vice-président du patronat français et actuel PDG de la SCOR, un groupe français de réassurance qu'il a fondé en 1970. Denis Kessler a donné son point de vue sur le désendettement, indispensable aujourd'hui en parlant d'une économie mondiale malade. Noël Fantoni lui a demandé si la maladie venait d'un virus, d'une imprudence, d'une faiblesse généralisée du patient ou bien d'un mauvais traitement.
Elle vient de 10 ans où on s'est livré aux délices de l'endettement à tous les niveaux. Les États se sont trop endettés, les collectivités locales, les ménages, les entreprises, tout le monde, les États. Et on a laissé filer les déficits de manière absolument inconsidérée. Et puis on se réveille le matin avec une gueule de bois épouvantable et des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards à rembourser. Et on se demande comment on va pouvoir rembourser ces sommes absolument colossales qui ont été accumulées. Et donc maintenant, on est dans cette nouvelle phase qu'on appelle le désendettement généralisé. Il va falloir rembourser ces dettes. Et pour y arriver, vous voyez toutes les tensions. Les États sont sans dessus dessous, doivent augmenter les impôts, ou essayer de réduire les dépenses, faire des réformes structurelles, demandent l'aide des banquiers centraux, puis demandent l'aide d'autres États. On est dans une situation quand même extrêmement difficile. La zone euro est mise à mal. La croissance économique ralentit parce que le crédit devient de plus en plus rare et que les entreprises ont des difficultés à en trouver. C'est une situation préoccupante. Et qui s'entretient, pourquoi ? Parce que, évidemment, moins de croissance, plus ça sera difficile de rembourser les dettes. Et c'est la raison pour laquelle la situation est vraiment préoccupante.
Alors, vous aviez parlé d'un certain nombre de solutions. Vous aviez eu beaucoup de difficultés à envisager, par exemple, défaut de remboursement de dettes. Est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers en disant, est-ce que la dette peut être rayée par ceux qui ont crédité ?
Non, parce que, je veux dire, le jour où effectivement quelqu'un ne rembourse pas, c'est très difficile pour cette personne de retrouver du crédit, parce que il y a la mémoire. Lorsque les États ont fait défaut historiquement, le lendemain, on est exclu du crédit pendant de nombreuses années, alors que c'est absolument nécessaire. Donc c'est une solution de désespérer de faire.
Ça, c'est le défaut, mais est-ce que les créditeurs peuvent rayer la dette?
Les créditeurs, de temps en temps, rayent la dette. Par exemple, pour un certain nombre de pays africains ou en développement, à la suite du tremblement de terre à Haïti, les prêteurs internationaux qui avaient prêté à Haïti ont effacé la dette. Donc, dans certains cas de grande urgence et de terribles difficultés des pays, ça se produit. Mais c'est très difficile de rayer la dette de pays comme le Portugal ou l'Espagne. Vous comprenez, c'est des sommes absolument astronomiques. Il faut quand même rappeler que dans le cas de la Grèce, en fait, on a déjà effacé 80% de la dette grecque, puisque que ce soit les prêteurs privés ou les prêteurs publics, à l'heure actuelle, ils ont dû renoncer à 80% des titres qu'ils détenaient de la dette grecque. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on appelle le défaut total. Mais si on fait un défaut total, plus personne ne prêtera à la Grèce pendant de longues années.
Vous aviez diagnostiqué un certain nombre d'avatars de cette crise. Elle a été financière, elle a été économique. Vous dites qu'elle est politique et sociale aujourd'hui. C'est son dernier développement, il n'y en aura pas d'autre ?
Alors on ne sait pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle change de nature, elle change de forme. Et au bout d'un certain temps, elle était très monétaire, ensuite elle était très financière, elle est économique, elle est en train de devenir en partie sociale et politique, on le voit bien, je veux dire. Beaucoup de citoyens, de peuples, des pays qui doivent faire ces transformations, qui doivent faire ces réformes, qui doivent se serrer la ceinture, résistent, ne comprennent pas, animent le débat politique. Dans un pays comme la France, vous avez quand même, on l'a vu aux dernières élections, que ce soit à la gauche de l'éventail politique ou à la droite de l'éventail politique, des gens qui milite pour la sortie de la France de la zone euro, voire même de l'Europe tout court. Donc ces forces politiques sont à l'œuvre et ont rassemblé quand même, je dirais, peut-être un tiers de l'électorat français, ce qui n'est pas négligeable du tout. Bon, les dernières élections grecques, vous le voyez, donnent le pouvoir en partie à des forces politiques qui sont là aussi hostiles et qui radicalisent les situations. Donc faisons très attention parce que l'histoire nous montre que les crises peuvent dégénérer. Elles peuvent dégénérer socialement, elles peuvent dégénérer politiquement et elles peuvent donner du aussi à la fin des conflits. Mais de voir, par exemple, hier, pour moi, le phénomène important de cette semaine, c'est la très grande manifestation en Catalogne pour demander avait assorti la Catalogne de l'Espagne, où il y avait, me dit-on, 1,5 million de personnes dans la rue, alors que la Catalogne demande l'aide à l'Espagne pour pouvoir honorer ses dettes contractées par la région. C'est un monde de fous. Enfin, je veux dire, à la fois on demande l'aide à l'Espagne, et en même temps on va dans la rue pour demander la sortie. Et la même semaine, le Québec vote plutôt pour le parti indépendantiste. Donc quand on me dit que tout ceci est stable, je dis attention, la crise, les difficultés, les tensions auront des traductions politiques, parce que chacun pense à un moment que s'en sortir tout seul, c'est plus facile que de participer à l'œuvre collective.
Une dernière question, vous avez été assez critique vis-à-vis d'Alan Greenspan, par exemple, ancien président de la Fed. Vous avez été assez critique sur les hommes politiques qui n'ont pas su voir les évoluer. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour justement avoir la bonne politique pour sortir des crises?
Et vous savez, à l'heure actuelle, une partie du marasme, et très honnêtement, les troupes n'ont pas le moral. Vous regardez toutes les enquêtes d'opinion en Europe, les troupes n'ont pas le moral. C'est quand même aussi un doute sur la capacité des dirigeants à trouver les solutions, à les appliquer, à avoir de la constance et autres. Donc beaucoup de citoyens se demandent, enfin c'est incroyable, comment se fait-il qu'ils n'aient pas vu ça, comment se fait-il qu'ils aient laissé les dettes se développer à un point où elles deviennent absolument insupportables. Donc il y a un doute des citoyens sur la capacité des dirigeants à trouver en temps et en heure des solutions. Très honnêtement, on va d'un plan d'urgence à un plan de crise. L'urgence et la crise, c'est des signes de mauvaise gestion. On se réunit, tout le monde attend le résultat, on s'enferme 2 jours à Bruxelles, on sort un communiqué le dimanche soir, c'est ce que voient les citoyens européens, et à chaque fois, sur fond, c'est le rendez-vous de la dernière chance, le sommet avant l'apocalypse. Enfin bon, c'est quand même une gestion un peu désordonnée, un peu anxiogène, j'aime bien ce terme-là, des choses publiques dans lesquelles on a toujours l'impression d'aller d'un plan de crise à un plan d'urgence. Aujourd'hui, tout le monde était en train d'attendre la décision de la Cour de Karlsruhe pour savoir s'il était constitutionnel ou pas de mettre en place les instruments décidés il y a deux mois et demi. Très honnêtement, lorsque déjà les gens sont inquiets, si vous rajoutez une gestion anxiogène de la crise, je vais vous faire une métaphore, si vous voulez. Non seulement vous êtes malade et vous commencez à douter de votre médecin, vous êtes malade au carré.
C'était une interview réalisée par Noël Fantoni.